marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La Nouvelle Russie, par M. Pierre Pascal, professeur honoraire à la Sorbonne.
Pierre Pascal, un Français chez les bolcheviks.
J'étais complètement avec le peuple russe. Je n'étais pas du tout révolutionnaire avant la révolution, pas du tout. Mais une fois la révolution éclatée en février, je m'y suis rallié tout à fait.
C'est au départ un fils de professeur, un normal supérieur, il fait partie du groupe Tala, il va à la messe. Il vit dans un monde bien encadré, apparemment. La Grande Guerre est la première rupture. Officier fiable, compétent, courageux, il l'a fait, sans état d'âme particulier, apparemment. Excellence l'avisant, il rejoint en 1916 la mission militaire française qui travaille aux côtés ou à côté de l'armée du Tsar. Et c'est la Révolution, deuxième rupture. Il a 26 ans, il est loin de ses bases matérielles, mais au fondement moral de sa vie, depuis ses premiers voyages dans le pays, il y a le paysan russe en qui il lit un désir de liberté sans pareil au monde. Comment pourrait-il se séparer du peuple russe? Les débats théoriques stratégiques entre révolutionnaires lui sont étrangers, comme le marxisme, mais il saisit la chance providentielle qui lui est offerte de vivre avec les Russes dans l'égalité, une égalité qu'il conçoit en chrétien. Pour parler toujours comme la Bible, il devient le fils prodigue. Quitte à susciter le scandale et la réprobation, il rompt avec la France et choisit l'Union soviétique dont il obtient la nationalité. Bien plus tard, il sera le maître des études slaves à la Sorbonne. Longtemps, il ne répondra aux questions de ses étudiants sur son passé que par un sourire bienveillant mais énigmatique. Enfin, à partir des années 1960, il rompra le silence. Derrière le vieux spécialiste de Dostoïevski et de Tolstoï, il y avait un personnage de roman, un acteur qui fut totalement dévoué à la Révolution, qui souffrit par elle, devint un dissident invisible et enfin un témoin incomparable.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Sophie Queret, bonjour.
Bonjour.
Biographe, éditrice du journal de Pierre Pascal, ce sont des livres passionnants chez Noir et Blanc. Spécialiste de l'histoire des communismes et de l'histoire des archives aussi. Il faut, sans dénouer tous les mystères de la vie de Pascal, quand même que vous disiez ce que sont ces manuscrits sur lesquels vous avez travaillé. Il a fini par quitter l'Union soviétique avec 19 caisses de livres et de manuscrits.
C'est vrai, Pierre Pascal a vécu 16 ans, presque 17 ans en Russie, puis en Union soviétique. Et puis en 1933, on verra pourquoi, il rentre en France et il a la chance, protégé notamment par Édouard Herriot, qui est aussi un ancien élève de l'École normale supérieure, de rentrer avec ses archives, avec ses carnets, avec ses photos, qui constituent un fonds absolument magnifique pour l'histoire de la Russie et de la Révolution.
Avant que ne soient publiés les textes de son journal, dont vous reprenez les années 28-29 chez Noir et Blanc. Ça, c'était à la fin de sa vie qu'il livrait enfin ses carnets. Il avait commencé à parler à la radio dans les années 50 et 60. Il y a des archives radiophoniques. Vous n'avez pas connu Pierre Pascal, mais vous reconnaissez sa voix d'emblée.
C'est vrai que l'entendre, comme on va l'entendre encore, c'est tout à fait différent parce que il a commencé à témoigner dès 1956-57 et surtout dans la série magnifique qui a été réalisée par Radio France en 1967, qui s'appelait « La Révolution russe vécue par ses témoins ».
Alors nous parlerons du centenaire de la Révolution d'octobre en son temps. La radio nationale, dès 1965, avait commencé un travail d'enquête et s'était adressée à lui, et il racontait la journée du 25 octobre, 7 novembre, dans le style ancien russe, à sa façon très particulière.
Archive, Monsieur Pierre Pascal, 71 première.
J'ai recherché dans mes souvenirs la journée du 25 octobre. Eh bien, dans les rues, rien de notable. Et j'ai un moment de libre, j'en profite pour aller chez un coiffeur. Il y a des promeneurs. C'est seulement en arrivant à la place du palais Marie, c'est seulement là que je remarque quelque agitation. Et il n'y a pas moyen de traverser la place. Mais les marins n'ont rien de spécialement belliqueux. J'en vois un qui explique à une femme comment il faut faire pour contourner la place et poursuivre sa route. J'entends des conversations dans la rue, entre les gens, des réflexions comme ceci, j'ai noté celle-ci. Après tout, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de l'ordre, et puis surtout, il nous faut des provisions. Et c'est là que j'apprends les événements plus au long. Et en particulier, on me raconte ce qui s'est passé aux centrales téléphoniques. Le central téléphonique avait été occupé pendant la nuit, comme tous les autres points stratégiques, par les bolcheviks. Le gouvernement y avait envoyé des élèves des écoles militaires, des Junkers, pour reprendre le central. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Les Junkers se présentent, les bolcheviks refusent de quitter la place, et ils disent « Nous, nous sommes ici une compagnie ». Alors les Junkers se regardent un peu, disent « Nous, nous sommes qu'une section, vous êtes les plus forts ». Les Junkers s'en vont.
Le récit de Pierre Pascal, en octobre 1967, c'est pas le récit dominant tel qu'il avait été imposé par l'historiographie communiste. Peu importe pour l'instant, Sophie Curé. Ce qui importe, c'est la qualité du ton, l'honnêteté du regard, le coup d'œil, non ?
Le coup d'œil, oui, tout à fait. Pierre Pascal est un extraordinaire témoin au sens où il sait écouter, il sait aussi, comme il dit, faire parler, c'est-à-dire qu'il discute, puisqu'il parle très bien russe, avec les simples passants, et ensuite il va savoir tout simplement raconter dans son journal, mais non pas pour l'histoire, il ne veut pas analyser, il ne veut pas critiquer, il ne veut pas interpréter pour l'histoire, tout simplement. Il raconte ce qu'il a vécu donc dans cet octobre 1917 à Saint-Pétersbourg, qu'on appelait donc à l'époque Pétrograd, pour que le nom ne soit pas trop allemand, puisque la Russie était l'adversaire de l'Allemagne. Il raconte ce qu'il vit comme officier de la mission française, mais aussi comme proche de ces Russes qu'il aime tant.
On va revenir un peu en arrière. La capitale s'appelait déjà Petrograd quand, à 20 ans à peu près, il fait ses premiers voyages en Russie.
Il fait ses premiers voyages, en réalité, encore à Saint-Pétersbourg.
La
guerre n'a pas éclaté. Donc
C'est seulement en 14 que c'est devenu Petrograd.
Pardonnez-moi. On n'est pas dans la guerre, on est dans l'alliance franco-russe, on est dans la mode russe aussi, c'est le roman russe, c'est aussi la comtesse de Ségur, etc. Donc Pierre Pascal se passionne pour le russe et la Russie, qu'il lit beaucoup, et il commence donc à l'époque ce qu'on a un mémoire de recherche sur la Russie, et il fait ses premiers voyages. Donc il fréquente à la fois les bibliothèques, bien sûr, mais aussi il voyage dans le pays, et c'est là qu'il commence à s'immerger dans ce quotidien du peuple russe qu'il aime tant.
Les Français ne se disent pas franchement les choses. Il faut être poli. Le Russe le dit. Le Russe dit ce qu'il pense. Et il déteste la politesse française. Il y voit une hypocrisie abominable. Un Russe me disait que lui, alors de son côté, avait été frappé par l'abondance des notaires en France. En Russie, il n'y a pas de notaires. Il doit y en avoir, mais il se cache quelque part, on ne les voit pas. Les Russes ne font pas de calcul. C'est bon ou c'est mauvais, ça ne peut exister évidemment que dans un pays où il y a échange. Échange de ces bons sentiments, échange de générosité. Voilà des détails enfin, de ces choses qui entrent dans ma conception générale du caractère russe et qui m'ont été sympathiques.
Après la radio, années 50-60, il ose la télévision 1970, archive du XXe siècle, avec son ancien élève, Georges Niva. Générosité, fraternité, le peuple le plus épris de liberté qu'il y ait au monde.
Alors c'est vrai qu'en 1967, Pierre Pascal n'a pas beaucoup changé par rapport à son premier contact, on va dire, amoureux avec le peuple russe au début du XXe siècle, en 1911-1912. Et à l'époque, on croit à ce qu'on appelle l'âme des peuples, à la psychologie des peuples. Alors on le dirait peut-être différemment, d'ailleurs il le dit différemment, c'est la culture. Mais c'est vrai qu'il ce qu'il aime dans ce qu'il appelle donc le peuple russe, ou le russe, c'est tout un ensemble de caractères, la douceur, la paix, le pacifisme, et ça influera beaucoup sur son rapport rapport avec la Révolution, mais aussi le sens du collectif, et enfin un désintérêt des choses matérielles qu'il touche profondément, puisque lui, le fils de bon bourgeois, d'abord d'Auvergne, et puis de son père est professeur au lycée à Neuilly, donc il vit dans cette petite bourgeoisie attachée aux choses matérielles, et pour lui c'est une espèce de libération que de voir ce peuple russe qui vit avec trois fois rien, et il va s'immerger dans cette vie pendant presque 15 ans.
Sans babouchka, la vie russe ne peut pas continuer. Sans paysans, la Russie est inconcevable. Il a un goût pour la commune paysanne, le zemstvo tel qu'il existait autrefois, et où se prenaient, paraît-il, les décisions de manière démocratique.
Pierre Pascal s'est intéressé comme savant aux paysans beaucoup plus tard, justement, dans ces années où il parle, 1960-70, mais comme jeune homme, il a vécu dans une de ces communes paysannes, qui est aussi une commune religieuse, qui se trouvait dans l'Ukraine actuelle, et où l'on tentait de retrouver à la fois une pureté religieuse et à la fois une vie communautaire, et ça l'a profondément marqué. C'est-à-dire que pour lui, en fait, ce qu'il appelle, dans une lettre à sa mère, dès 1911, le communisme, ça n'est pas le communisme de Marx. C'est vraiment le communisme du peuple russe qui vit dans ce qu'on appelle le MIR, c'est-à-dire tous ensemble et en administrant tous ensemble la terre.
Est-ce si loin de l'image de la paysannerie que donnaient certains ballets russes ? Stravinsky y participait, on le sait, et il a écrit des chansons paysannes. En voici une avec le New London Chamber Ensemble. Et c'était les années de la Révolution, celles où on commençait à donner Petrouchka en Russie. Benoît a passé l'année 1917 à tenter de monter Petrouchka.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sophie Curé qui a publié la biographie et les carnets de 28-29 de Pierre Pascal, chez Noir sur Blanc, nous parlons d'un Français qui va devenir bolchevique, alors que chrétien, attaché à la tradition paysanne russe, on ne pensait pas qu'il participerait à la Révolution. En 1916, après avoir combattu courageusement pendant la guerre, il devient officier à la mission militaire, ce qui ne lui plaît qu'à moitié. Il est content d'être en Russie, mais n'aime pas la vie mondaine qu'implique la présence aux côtés des diplomates d'un officier de la mission militaire.
C'est vrai que c'est une situation assez particulière pour ce jeune intellectuel, puisqu'il est officier, envoyé à la fois comme traducteur, mais aussi pour le bureau de propagande, puisque la France est l'alliée de la Russie, mais ça ne se passe pas si bien sur le front russe. Donc on essaye de renforcer, à la fois matériellement et, on va dire, moralement, l'élan russe dans la guerre contre les Allemands et les Autrichiens. Et du coup, Pierre Pascal se trouve plongé dans un milieu qu'il ne connaît pas, qui est le milieu des ambassades, le milieu des officiers. Et petit à petit, il va s'en détacher, il va considérer que lui comprend les Russes, alors que ces Français, en fait, ne voient que leur intérêt, ne voient que l'intérêt de la France et ne comprennent pas pourquoi, petit à petit, finalement, les Russes et les soldats, mais aussi les femmes de soldats, se détachent de la guerre et finalement refusent de la faire et font la révolution.
La révolution de février commence par les manifestations de femmes, le tsar abdique, le tsar qui avait décoré Pierre Pascal, enfin, il décorait à la chaîne, sans dire grand-chose d'ailleurs, quand il distribuait l'ordre de Saint-Stanislas avec son glaive.
Pierre Pascal a toujours été un peu mal à l'aise avec cette décoration, mais c'est vrai qu'elle ne signifie pas forcément grand-chose. Il est décoré comme officier, le tsar passe devant lui, il lui accroche une décoration, mais en même temps, ça dit bien qu'il est vraiment complètement inséré dans ces milieux dont il va se détacher avec une brutalité extrême en quelques mois, en 1917.
En avril, c'est le retour de Lénine qui va donner connaissance de ses thèses, où il commence à glisser l'idée de la peine nécessaire. Lénine, quand Pierre Pascal le voit pour la première fois ?
Lénine, pour lui, comme il l'écrit à sa mère, c'est un certain Lénine. C'est un bolchevique parmi d'autres, ceux qu'il appelle à l'époque les agités de gauche. Donc on voit bien qu'il n'est pas du tout à l'époque ni marxiste ni bolchevique. Ça l'intéresse parce qu'il s'intéresse évidemment au mouvement politique de la Russie, mais il ne le connaît pas et il ne s'y intéresse pas plus que ça, jusque bien sûr en octobre 1917.
Mais on n'est pas encore en octobre. Tout de même, dès le départ, il sent dans l'éloquence de Lénine quelque chose de plus russe que dans l'éloquence de Trotsky. Par exemple, Lénine utilise des proverbes, alors que l'autre, Trotsky, n'est que rationaliste.
Pierre Pascal a toujours été très sensible à la langue russe, et de fait, il comprend que Lénine parle véritablement beaucoup plus efficacement à son auditoire que Trotsky, qu'il va toujours considérer comme un intellectuel abstrait, important finalement de l'extérieur des idées qui ne conviennent pas à la Russie.
Mais nous ne sommes pour l'instant qu'au printemps 1917 et le grand orateur, le plus prenant, c'est certainement Kerensky, ministre de la guerre du gouvernement provisoire et qui tente de fédérer toutes les tendances anti-monarchiques et de combiner la poursuite de la guerre avec l'idéal de liberté, accordant la liberté de la presse, la fin de la censure. Vous parliez de la comtesse de Ségur, grâce à Kerensky, on peut lire le général Dourakine librement en Russie au printemps 1917. Mais enfin, l'urgence, c'est de faire la guerre. En mai 1917, le lieutenant Pascal se retrouve en tant que représentant de la mission militaire, non loin de Kerensky.
J'arrive donc à Riga. Je passe une nuit à l'hôtel, et puis le matin, de bonne heure, il va être sur les 6h, 7h peut-être, j'entends, par la fenêtre, au loin, un bruit de discours, avec des applaudissements. Le discours reprenait, les applaudissements fusaient de nouveau. Et ensuite, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on m'a dit « mais c'est Kerensky qui parle ». Alors il parlait ainsi, il faisait sa campagne de propagande, justement, de bon matin, toute la journée et partout. C'était en effet un grand discoureur. Et il passait dans une tranchée et il parlait aux soldats avec sa fougue habituelle. Il leur faisait honte. Vous devez défendre les conquêtes de la Révolution. Défendez la terre que la Révolution vous a donnée, etc. Alors un soldat dit, la terre, mais si je suis tué, est-ce que j'aurai la terre? Alors Kerensky l'a accablé de tout son mépris, je ne sais plus en quel terme exactement, mais l'autre en est tombé comme mort.
Bah, il a dû lui dire, vous autres soldats, vous avez été capables de tirer sur le peuple quand le tsar vous le disait, vous n'êtes pas capables de tirer sur les ennemis allemands. Il avait des formules de ce genre, Kerensky.
Kerensky, c'était vraiment l'homme clé de la Révolution. Donc 2 février, ministre de la guerre, ensuite Premier ministre, et il est connu pour ses dons d'orateur. Hein. Il était surnommé le Danton russe. Il était aussi caricaturé comme un Napoléon. Il est là pour lancer la dernière offensive, le coup de dé qui doit sauver la révolution de février, qui en fait la perdra, la dernière offensive de juin 1917. Mais en fait, c'est déjà trop tard, puisque ce sont des soldats paysans, on le voit bien, qui veulent leur terre, qui veulent retrouver leur terre, et qui ne veulent plus en fait combattre. Et Kerensky, en réalité, comme on le dirait maintenant, c'est peut-être tirer une balle dans le pied, puisqu'il a beaucoup assoupli la discipline de l'armée russe par démocratie, mais le piège de la démocratie, c'est qu'elle est prise au mot, et donc on ne salue plus les officiers, il n'y a plus de châtiment corporel, donc il ne peut plus compter que sur sa parole. Et ça ne fonctionnera pas, et ça va beaucoup, beaucoup impressionner Pierre Pascal, qui fait plusieurs tournées donc dites de propagande, à l'époque ça n'est pas un terme négatif, sur le front, et qui va entrer en contact pour la première fois finalement avec ses soldats paysans, puisqu'il avait vécu dans les milieux des ambassades et des officiers.
Il n'y a pas beaucoup de témoins français de la révolution russe qui peuvent aller aussi loin dans la connaissance du peuple russe. Qu'est-ce qui fait la qualité et la singularité de son témoignage par rapport aux autres ?
C'est vrai que beaucoup de Français soient déjà vivent en Russie, ou bien y arrivent pendant la guerre. Et parmi ces Français qui arrivent pendant la guerre, diplomates, journalistes, Pierre Pascal est le seul à parler véritablement le russe, à connaître la culture russe, certes de façon un peu abstraite au début, et donc à pouvoir véritablement entrer en contact avec la population. Donc il vit cette expérience de la guerre et de la révolution de l'intérieur et non pas comme observateur extérieur.
Juillet, avec les anarchistes, les bolcheviks tentent une sorte de répétition générale de la révolution, une insurrection qui est réprimée, mais qui laisse Kerensky diminuer, d'autant qu'il a nommé comme ministre de la guerre pour lui succéder le général Kornilov, qui tente un putsch. L'isolement de Kerensky, après l'échec de ce putsch, va grandissant. Lénine va convaincre la direction bolchevique de tenter une nouvelle insurrection. Elle est possible, dit-elle. Elle a lieu le 25 octobre et le 26. Il donne lecture de ces deux décrets, décret sur la nationalisation sans indemnité de la grande propriété agricole, décret sur la paix. Les peuples et les gouvernements doivent entamer de suite des pourparlers pour celle-ci.
Moi, personnellement, j'étais complètement avec le peuple russe dans toute cette affaire et depuis le début. Je n'étais pas du tout révolutionnaire avant la révolution, pas du tout. Mais une fois la révolution éclatée avec cette unanimité en février, je m'y suis rallié tout à fait et très facilement, puisque cette révolution me semblait refléter la volonté à peu près unanime du peuple russe. Et cette volonté, c'était la fin de la guerre avant toute chose. La fin de la guerre.
Encore un extrait de l'émission de 70, archives du XXe siècle, saluant une nouvelle fois l'émission de Georges Niva. Et Georges Niva, lui-même, il va pas quitter la Russie, lui. À la différence des officiers de la mission militaire, celle-ci d'ailleurs demeurant longtemps parce que Clémenceau ne désespère pas ou de la chute des bolcheviks ou de la possibilité d'un rabibochage.
Tout à fait. Ce qui est passionnant à la fois dans le journal et dans les correspondances de Pierre Pascal, c'est de voir cette évolution au jour le jour où petit à petit la révolution russe se radicalise elle-même, puisqu'au début Trotsky discute avec les officiers français pour continuer la guerre, et finalement c'est ce que Pierre Pascal espère, c'est-à-dire qu'il a un vrai conflit de loyauté. Il pense que la guerre finalement était juste, mais en même temps qu'elle est refusée par le peuple russe, donc que faire? Et il va faire ce choix, faire ce qu'il dit, sauter le pas, faire un pas décisif en octobre 1918, quand finalement les bolcheviks ont rompu avec les puissants alliés. Ils ont signé la paix séparée de Brest-Litovsk. Donc pour les Français, les bolcheviks ont trahi. Les Français donc doivent rentrer. Et que fait Pierre Pascal avec une petite poignée d'officiers français, comme Jacques Sadoul, mais aussi de simples soldats, comme Marcel Body? Eh bien, il décide de rester, donc de choisir le bolchevisme, pour le coup, et de s'engager complètement au service de la Révolution, à la fois de sa diplomatie, de sa politique extérieure, mais aussi, politiquement, il devient un vrai bolchevique.
Alors, ces hommes que vous citez font partie avec lui du premier groupe communiste français qui va vivre ensemble pendant quelques mois. Quelle chance, quelle opportunité, quelle chance providentielle, il insiste sur le mot providence d'ailleurs souvent dans ses textes, que de pouvoir vivre comme les autres. La pénurie étant générale, de pouvoir être enfin dans la 16.
Les témoins qui ont beaucoup publié par la suite leurs souvenirs, parce que Pierre Pascal était devenu quand même un personnage un peu connu dans les années 20, insistent sur ce personnage assez étrange, très maigre, puisqu'il refuse toutes les ration prive des premiers privilégiés du régime communiste. Il est pieds nus dans ses bottes trouées, il porte l'habit russe, la chemise russe, l'uniforme russe, et il se dévoue donc corps et âme à cette révolution, au point d'être véritablement, comme on dirait maintenant, radicalisé, puisqu'il va aussi se mettre au service de la police politique, de la Tchéka. Il va écrire des textes extrêmement durs, donc c'est véritablement un engagement total dans lequel il bascule et dont il va sortir progressivement au début des années 1920.
Alors, un moment éditeur, parce qu'il est un virtuose de la traduction des textes de Lénine dans une version critique en français, il va peu à peu être marginalisé, il va faire des traductions anonymes et se replier, quand la révolution le désenchante, sur le petit Paris, c'est-à-dire sur la chambre qu'il partage. Bénédictin avec sa bénédictine, la femme qui l'épouse, et puis ses amis. La politique devient l'amitié.
La politique devient l'amitié pour tous ces révolutionnaires, ces premiers révolutionnaires qui avaient véritablement cru corps et âme à la révolution et qui se trouvent marginalisés par Staline et par l'évolution du régime, et qui vivent dans cet ancien hôtel qui s'appelle le Petit Paris, le bâtiment existe encore à Moscou. Et donc c'est tout un milieu d'amis, un milieu familial aussi, puisque par exemple Pierre Pascal est le beau-frère de Victor Serge, ils sont compagnons de deux sœurs. Ils correspondent, ils discutent, et là petit à petit donc ils s'engagent dans une critique de la politique stalinienne, mais tout en restant fidèle à la révolution russe, et d'où beaucoup de tensions et beaucoup d'enthousiasme toujours, mais aussi de tensions et politiques et même personnelles.
Alors avec beaucoup de chance, et avant qu'il ne soit trop tard, il a réussi à rejoindre la France en 1933, on va finir par les lire maître de conférence à Lille, plus tard professeur à la Sorbonne. Mais il faut imaginer dans les années 30 la difficulté de cet homme s'il devient silencieux. C'est parce qu'il ne veut pas désavouer ce qu'il a fait ou pour d'autres raisons ?
Il y a des raisons personnelles, il y a aussi des raisons plus générales. C'est-à-dire qu'il faut voir que les années 1930 sont l'apogée de ce qu'on peut appeler une véritable mythologie soviétique positive. Ce sont les kolkhozes, les kolkhoziennes heureuses, les ouvriers qui construisent l'avenir. Alors une mythologie qui est construite, mais qui aussi engage beaucoup d'espoir, puisque c'est le Front populaire en France. Donc on y croit depuis la France, et le témoin critique sait qu'il ne peut pas être entendu. Et puis en même temps, sa femme est russe, sa belle-famille est encore en Union soviétique, et il sait parfaitement le risque qu'il prendrait pour eux à critiquer ouvertement Staline.
Oui, parce qu'une partie de sa famille va connaître le goulag. Sa femme est juive et lui va avoir des difficultés avec Vichy parce que sa femme est juive.
C'est la suite de l'histoire de Pierre Pascal. C'est vrai que c'est vraiment l'histoire des tragédies du XXe siècle, puisque une partie de sa famille, donc, est victime sa belle famille est victime du goulag. Et puis, sous l'occupation, sa femme, Evgenia Roussakova, est dénoncée comme juive et menacée. Donc, elle est aussi dénaturalisée et menacée. Et d'où toute une difficulté qui va être très très mal vécue et qui explique sans doute ce silence de Pierre Pascal dans les années 50, jusqu'à la fin de sa longue vie.
Alain Besançon, vieux routier de l'antisoviétisme, dit « il savait la vérité, il nous la cachait ». Qu'est-ce qui s'est passé qui a dénoué le silence ?
C'est le temps qui passe, sans doute, et puis la sensibilité qu'on trouve, par exemple, encore aujourd'hui avec les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale, la sensibilité au fait qu'il est l'un des derniers survivants et qu'il faut donc témoigner. Il va le faire dans la revue Preuve, à la radio, et puis publier donc son journal dans les années 1970.
Mais il va jamais aborder de front la question du rapport des deux totalitarismes qui était si central dans la réflexion politique des années 1970, si vraiment ?
C'est vrai, Pierre Pascal utilise ce mot très tôt, mais il n'est pas un politique, et ça c'est une continuité de sa vie depuis le début. Il ne veut pas théoriser, il veut simplement continuer de façon modeste à être un professeur de russe, un commentateur des grands textes russes, et il ne veut pas intervenir dans le débat public.
Et il ne retournera jamais en URSS, peut-être pour ne pas être déçu par l'évolution des paysans russes, des gens du peuple russe.
Tout à fait, il y est invité, mais il se refuse à y rentrer, et donc il ne connaîtra pas l'évolution de la Russie de Khrouchtchev et après.
La Russie que j'aime, ce n'est pas la Russie des dirigeants, naturellement. Ce n'est pas la Russie des puissants, de ces gens qui sont séduits par je ne sais quel idéal de puissance, de prestige, de domination. J'ai en vue non pas seulement les dirigeants, mais enfin tous ceux qui suivent cette tendance. Ce ne sont pas ceux-là que j'aime. Et alors justement, ceux que j'aime, ce sont les gens qui font leur métier, sans bruit, modestement, dévoués à leur tâche, sans gagner beaucoup.
Votre biographie de Pierre Pascal, Sophie Queré, merci à vous. Elle est parue aux éditions Noir sur Blanc, ainsi que les carnets de Pierre Pascal de 1918-1929.